France Musique. Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Émilie, comment allez-vous en ce dimanche soir?
En ce dimanche 21 avril, écoutez, tout va bien.
Eh bien, vous allez écouter de la musique américaine, celle de Philip Glass ou de Timo Andrés tout à l'heure. Mais on part d'abord vers le nord.
What do I get? What do I get?
Do you really care?
What do I get for being polite?
I am not sure that you really care.
What do I get
just
for giving you space? Listening to you. What do I get for giving you attention? A game of zero sums. Do you see me as I see you? Is it only for me to give? To receive.
What do I get?
Get back?
I said, I'm sorry. Did you hear that? I said, I'm sorry.
Please have a seat.
You never said that you were sorry. I am really sorry. That you were sorry. I said, forgive me. Can't you see that I asked you to forgive me?
Woman and the child's dear.
compositeur et musicologue norvégien Henrik Elstenius. Est-ce que vous connaissez ce compositeur? Et pourtant, moi non plus, je ne le connaissais pas. Et il est passé par la France. Il a étudié avec Gérard Griset. Il a fait aussi beaucoup de choses à l'IRCAM. Donc, on devrait le connaître. Et je suis sûr que certains de nos auditeurs le connaissent. C'est un compositeur très prolifique. Et toute son œuvre a un lien avec le théâtre, la voix ou l'opéra. Et même lorsqu'il écrit, par exemple, des concertos pour instruments, ici, c'est un concerto pour piano et percussion, eh bien, il y a une partie vocale. L'instrumentiste est presque comme un protagoniste de ses œuvres. Nous avons tendance à considérer les compositions vocales comme une mise en musique, nous dit-il, du texte. Mais il en va autrement ici. La musique apparaît souvent comme un sous-produit de l'articulation des mots. Et je trouve cette idée assez belle, finalement, que c'est la musique qui conduit aux mots et à la phrase. Et non l'inverse. Je trouve que c'est un projet très intéressant. C'est une musique qui m'a beaucoup plu. Le texte vient de la musique, la note vient de l'articulation. Et on y trouve deux grandes partitions sur ce disque. Voici la seconde.
Yestrogonika macergo tareran!
Thank you. know of things.
Listen to the things.
Listen to them.
Remember of things.
Listen to the mama.
Listen to the
mama. Listen to that. Remember of things.
Remember of things.
C'est la musique de Henrik Elestnius, un beau disque par le label BIS pour découvrir l'œuvre de ce compositeur, les Nordic Voices. Et vous me disiez, Émilie, hors micro, ah ça c'est très esprit Nordic Voices
ah,
qu'on
oui.
vient d'entendre. C'est vrai qu'il y a toujours une sorte de théâtralité avec des voix qui ont beaucoup à faire dans les partitions de ce compositeur. Ici, c'était Ilian Volkov qui dirigeait l'orchestre symphonique de Stavanger.
France Musique, en piste contemporain. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
C'est une série dont on a déjà parlé. Les solistes européens du Luxembourg ont lancé un grand cycle autour des compositeurs luxembourgeois. Voici le troisième volume avec 5 nouveaux compositeurs.
Thank you.
Nouvelle Antigone, c'est la musique d'Olivier d'Artevel avec les solistes européens du Luxembourg dirigés par Christophe Koenig. Il fait partie des 5 compositeurs de ce disque, donc autour des compositeurs luxembourgeois. Aucun d'eux n'a évidemment la même esthétique, ce qui nous montre toute la différence et la diversité de la scène musicale du pays. Certains raisonnent la tonalité, d'autres vont au-delà ou regardent du côté du jazz. Et j'ai choisi de vous faire entendre Waves. C'est une pièce de Catherine Contz, une compositrice née en 1976. Elle vit à Londres, elle enseigne la composition au Royal College of Music, et son œuvre The Waves est inspirée du livre du même nom de Virginia Woolf, et elle nous dit que le monde depuis Virginia Woolf a changé, mais que de nombreuses inégalités de l'époque restent toujours d'actualité. À bien des égards, dit-elle, nous menons toujours les mêmes batailles, et notamment celle du féminisme, un thème qui a irrigué cette partition. Les vagues historiques féministes sont autant de vagues orchestrales que l'on peut entendre tout au long de cette œuvre. Alors évidemment, la manière de traiter l'orchestre va évoluer tout au long de la pièce, il sera traité de différentes façons selon la vague féministe qu'il représente. Les revendications ont pris différentes formes au cours du XXe siècle et c'est ce qu'elle a voulu montrer dans son orchestre. Il y a même une version où il n'y a que les femmes qui jouent à un moment, mais
très,
pas dans celle-là.
Très engagé, voilà. Là. C'est un disque très engagé.
Alors, je me suis demandé si c'était pas le cas ici parce que les solistes du Luxembourg n'avaient pas assez de femmes dans l'orchestre. C'est vrai, c'est pas. C'est...
Donc ils ont eu le droit de sortir le disque quand même.
Alors, il y a quand même. Oui, alors oui, quand même. L'œuvre, en tout cas, s'achève en forme de point d'interrogation car le combat n'est pas fini.
Thank you. Thank you.
The Waves, la musique est de Catherine Kuntz et ce sont les solistes européens du Luxembourg dirigés par Christophe Koenig qui ont commandé cette partition et ça fait partie d'une série autour de la musique d'aujourd'hui luxembourgeoise.
France Musique en piste contemporain. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Est-ce que vous connaissez, Émilie, Timo Andrés?
Oui, je connais.
Je vous avoue que moi, c'est les Sœurs Labec qui m'en ont parlé pour la première fois il y a quelques années.
Peut-être c'est vous qui me l'avez fait découvrir.
C'est possible aussi. C'est vrai que c'est un peu une star aujourd'hui dans les compositeurs américains. Nouvelle star du minimalisme. Ce mouvement n'a pas encore fini de faire des petits ou des petits arrière-petits-fils. En tout cas, on a beaucoup, beaucoup de disques autour de ce mouvement. Timo Andrés est né en 1985. Il est également pianiste, même d'ailleurs vraiment bon pianiste. Il a grandi dans la campagne du Connecticut. Et puis il est venu vivre à New York et puis il y a eu un moment très important pour lui, c'est la rencontre de John Adams. John Adams a dirigé sa musique et là sa carrière a pris un essor absolument formidable. Et là c'est un disque, premier disque vraiment monographique avec des pièces très intéressantes, très ambitieuses aussi. La pièce que vous allez écouter dure presque 40 minutes et c'est vrai que souvent les œuvres de ces post-minimalistes sont, je trouve, assez courtes dans les durées. Ici c'est une œuvre vraiment ambitieuse, c'est le Metropolis Ensemble qui enregistre ici la musique de Timo Andrés. The Blind Bannister, c'est la musique de Timo Andres. Timo Andres, retenez bien ce nom si vous avez envie de faire des découvertes du côté de la musique, enfin des compositeurs américains du moment. Il y en a plusieurs, hein, mais Niku Mioli et lui sont un peu les stars du moment. C'est le Metropolis Ensemble sous la direction de Andrew Sear qui enregistre ici ce disque monographique.
Alors lui, c'est pas une star du moment aux
États-Unis.
Non, c'est
une star de toujours.
C'est une star de toujours. Et bah, vous allez peut-être le reconnaître, c'est Philip Glass et c'est l'heure de l'expérience, en tout cas, ça que je peux vous l'annoncer.
Ah.
Alors là, vous venez déjà de me remercier pour cette expérience.
Ah, mais oui, merci Émilie, je ne suis même pas sûre de reconnaître l'instrument.
Ben non. C'est écrit mélodie pour saxophone de Philip Glass, c'est écrit pour le saxophone, mais je vais vous dire de quoi il s'agit. Déjà, je vais vous parler.
C'est un tuba.
C'est pas un tuba, c'est un tubax.
Ah, je pensais que c'était vous qui aviez sorti votre disque.
Non, vous allez voir. Alors, c'est l'américain Pat Posey. Sur la pochette, il est en robe avec des grosses Doc Martens et puis il a cette drôle d'instrument devant
lui. Une robe rose?
Non, toute noire. Ah, mais toute alors, noire. Le fond du disque est tout rose.
Ah voilà, c'est
oui,
pour
c'est,
ça.
C'est vrai.
Je me souviens.
Et c'est le tubax. Alors, le tubax, c'est un saxophone contrebasse qui a vu le jour en 1999, mis au point par Benedict Appleheim, le facteur. Et ce dernier est mort il y a tout juste un an. Et Pat Posey avait eu la chance de le rencontrer en 2018 à Munich. Il a tout de suite été fasciné par le timbre de cet instrument et ses possibilités techniques. Et il a fini par acheter son tubax en 2022. Ah. Il a passé plus d'un an à travailler
le tubax
pour pouvoir sortir ce programme avec donc des mélodies pour saxophone de Philip Glass arrangées au tubax, la troisième suite pour violoncelle de Bach. Alors là, je vous dis, c'est une sacrée expérience à l'écoute. Une pièce de Pat Posey, donc spécialement écrite pour cet instrument puisqu'il n'a pas encore un très grand répertoire, hein, forcément. Et puis, encore une autre pièce écrite pour saxophone par la compositrice Shelley Washington qui s'inspire de pièces de Bach et de Charlie Mingus, et on va en écouter un extrait.
Thank you.
Moïngus.
Merci, Émilie.
La musique de Shelley Washington par Pat Posey, qui est donc au Tubax.
Vous croyez que si en piste contemporain n'existait pas, ce disque pourrait passer quelque part ?
Mais écoutez,
heureusement qu'on est là quand même.
Absolument. Et je voudrais vous lire la critique de ce disque dans le BBC Music Magazine, ce qui est très bien noté.
Il n'y a pas que vous qui l'avez.
Non. Le timbre guttural est grondant et ici parfaitement mis en valeur. Pat Posey fait preuve d'une virtuosité diabolique et d'une technique et d'une puissance pulmonaire colossale. Mais oui, parce que je pense que pour souffler dans le tubax, il faut une grande capacité pulmonaire. C'est un spectacle éblouissant et troublant, celui d'un musicien qui repousse les limites de la créativité.
Bon, voilà. Amateur de tubax, vous avez ici votre disque.
Mais ça me donne envie de jouer du tubax.
Ah ben oui, vous passez du tuba au tubax.
Oui,
pourquoi pas.
Mais il n'y en a pas beaucoup, je crois, des tubax.
Non, mais maintenant, vous avez un contact.
Oui, c'est vrai, j'ai pas de posi.
Pas de posi. Le journal de la création.
Bonsoir Laurent Villarem.
Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe.
Bonsoir.
Alors je commence par une question brutale. Qui de nous trois aime le plus la musique baroque ?
Ah, alors Rodolphe aime beaucoup la musique baroque.
Je ne sais pas. Donc c'est moi.
Rodolphe, voilà. D'accord. Okay.
Alors on commence le journal par le Magnificat d'Antoine Boesset. Ce Magnificat de Boesset est joué le 27 avril à l'IRCAM, et oui, par les pages et les chantres du Centre de musique baroque de Versailles. L'idée consiste à tisser un lien entre la musique vocale des XVIIe et XVIIIe siècles et les compositeurs d'aujourd'hui. Ce nouveau projet s'appelle Janus, la mue de la musique. On retrouve la création de deux excellents compositeurs, Justina Repechkaite, qui est d'origine lituanienne, et le Serbe Hugh Marković. On appelle tout de suite Fabien Armango, le directeur artistique et musical de la maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles. Bonsoir Fabien Armango. Vous êtes le directeur de la maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles. Excusez-moi, j'ai une question très innocente. Est-ce que vous aimez la musique contemporaine ?
Alors oui, j'aime beaucoup la musique contemporaine. Ça serait difficile pour moi de diriger une œuvre que je n'aime pas et que je n'ai pas envie de défendre. J'en ai beaucoup fait dans mes études de direction auprès de Dominique Ruiz. Et j'avoue notamment être un amoureux de la musique de Philippe Hersant, et nous avions créé son Cantique des Trois Enfants dans la Fournaise avec notre maîtrise et la maîtrise de Radio France, et ça reste un de mes grands souvenirs. Et aussi pour ce projet Janus qui nous occupe pendant 3 ans, j'ai passé beaucoup de temps à écouter de nombreux compositeurs et en choisir 4 dont les univers me parlent, à savoir Arianna Alcina-Tarès, Justina Repechkaite, Hugh Marković et Adrien Tribucchi, qui ont des univers très particuliers et que j'ai envie de défendre.
Comment décririez-vous le projet La Mue de la Musique à l'IRCAM ?
Alors c'est un projet avec la compositrice Justina Repechkaite, qui a elle-même beaucoup chanté dans sa jeunesse et qui est venue au Centre de musique baroque de Versailles voir le chœur des pages, les enfants, et qui a voulu s'intéresser au phénomène de la mue et à écrire pour des voix qui sont en train de muer, mais pas que. Et avec aussi cette allégorie du serpent qui est un instrument qui accompagnait à l'église les voix d'enfants. Et c'était un instrument joué par les chanteurs qui étaient en train de muer et qui n'allaient plus pouvoir chanter bientôt. Et il y a évidemment le jeu de mots avec la mue du serpent. Et Justina s'est inspirée d'un texte d'un médecin suisse, Samuel Auguste Tissot, un essai sur la mue de la voix qui date de 1754, et elle a écrit donc à 6 voix sur ce phénomène-là, en prenant aussi en compte l'acoustique de la chapelle royale qui sera recréée à l'espace de projection de l'IRCAM.
Que remarquez-vous dans l'écriture des compositeurs et compositrices contemporains qui s'intéressent beaucoup à la musique médiévale et baroque ?
Alors tout d'abord, un souci du texte. Chaque fois qu'on a travaillé sur ces compositions avec ces compositeurs, le choix du texte a été toujours fondamental, que ce soit le texte du Stabat Mater pour Hugh Markovitch, le texte de Tissot dont je viens de parler pour Justina Repeikaitė. Donc un souci du texte, de la rhétorique et aussi des éléments baroques qui sont utilisés, que ce soit soit des instruments, la viole de gambe, le serpent, soit des phénomènes d'écriture. Par exemple, un des marqueurs de la musique baroque française, c'est l'écriture à cinq voix pour le chœur, et Hugh Markovitch s'est intéressé à cela, et dans son Stabat Mater, on retrouve cette écriture à cinq voix, et aussi une grande culture, je trouve, de ces compositeurs actuels, une grande culture de la musique baroque. Et aussi, ce qui me touche, moi, c'est cette humilité par rapport à la musique du passé, et qu'est-ce qu'on en fait, et en quoi on la rend actuelle par des procédés actuels, et qui fait qu'elle soit toujours vivante. Et c'est, je pense, l'esprit de ce projet Janus.
Merci beaucoup, Fabien Armengo.
Merci beaucoup, Laurent Villarem.
On termine cette séquence avec un extrait de Quid sit musicus de Philippe Leroux, qui est un exemple de mélange entre l'électronique de l'IRCAM et la musique médiévale de Guillaume de Machaut. Un extrait de Quid sit musicus de Philippe Leroux. Je rappelle le concert des pages et chantres du Centre de musique baroque de Versailles le 27 avril à l'IRCAM. Il y a 2 ans, on avait fait un journal spécial Ukraine avec des compositeurs et compositrices ukrainiens, et plus tard dans l'année, on avait appelé le compositeur russe Dimitri Kurlyansky, qui a choisi l'exil plutôt que de rester en Russie. L'émission s'appelait « Bienvenue en France, Dimitri Kurlyansky ». On reprend des nouvelles du compositeur, car Kurlyansky a une création ce jeudi 25 avril à l'auditorium du CRR de Paris par l'ensemble 2E2M, dirigé par Léo Margue. L'idée du concert, c'est de jouer 3 formidables compositeurs et compositrices installés en France. On retrouve donc Farnaz Modaresifar, d'origine iranienne, Dimitri Kurlyansky, et Giulia Lorusso, qui est d'origine italienne. J'ai posé la question à Dimitri Kurlyansky, comment il se sentait après 2 ans passés en France et si l'exil avait modifié son écriture musicale.
Oui, en général, tout va bien. On a installé, plus ou moins. J'ai des projets, j'ai des commandes, j'ai des concerts. Ma femme, qui est écrivaine, elle a trouvé une solution pour s'exprimer artistiquement. Et maintenant, elle n'est pas que écrivain, mais aussi artiste plasticien. Elle fait des installations, des performances. Les enfants aussi, ils vont bien, ils parlent français, c'est le plus important, donc tout marche. Par rapport à la pièce pour 2E2M, c'est la 3e pièce dans le cycle des Possible Places, des lieux possibles, le cycle que j'ai commencé pendant la pandémie, qui est devenu, on peut dire, prophétique, parce que c'est une réflexion sur l'impossibilité de trouver une place fixée dans la vie, dans la musique. C'est un passage permanent d'une matérielle à l'autre, d'une note à l'autre, etc. C'est intéressant qu'après la migration, je pouvais pas composer pendant une année. Cette pièce, une des premières que j'écris après cette pause. Et dans cette pièce, je viens vers un matériel plus ou moins traditionnel, vers l'écriture plus ou moins classique. J'avais besoin de cette retour vers les routes, vers les bases.
Un extrait de Shiver de Dimitri Kurlyansky par l'accordéoniste Fanny Vicens. Nouvelle création de Kurlyansky par l'ensemble 2E2M, dirigé par Léo Margue, le 25 avril, au Conservatoire de la rue de Madrid, à Paris. On termine par une compositrice également installée en France, je crois qu'actuellement elle est à la Villa Médicis de Rome, c'est Sylvain Eldar. La compositrice israélienne avait fait l'événement il y a 2 ans avec son opéra Like Flesh. Elle retrouve ici le chœur Accentus pour une nouvelle création qui porte de nouveau sur la question de la forêt, puisque l'œuvre s'appelle The Stone, The Tree, The Well. Très belle musique de Sivan Eldar à entendre le 26 avril à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. On écoute un extrait d'une pièce précédente d'Eldar, toujours pour l'ensemble Accentus, After Arethusa. Création chorale de Sivan Eldar, le 26 avril, à la scène musicale.
Merci beaucoup Laurent Villarem et on se voit la semaine prochaine. Et merci à l'équipe qui est avec nous ce soir, Fanny Constant, José Bernays et Colline Redon.
À réécouter sur francemusique.fr.